Et c'est la Philippe de l'Info Média du jour.
3 ans qu'il n'avait pas parlé publiquement, 3 ans qu'on attendait qu'il s'explique, voire qu'il présente des excuses. Rien de tout ça. François Fillon était l'invité hier de l'émission Vous avez la parole sur France 2, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. La dernière fois qu'il avait parlé à la télévision, c'était le 23 mars 2017 dans l'émission politique, toujours sur France 2, présentée à l'époque par David Pujadas. François Fillon était alors candidat des Républicains à la présidentielle. Aujourd'hui, le contexte est tout autre, c'est rien de le dire. L'ancien Premier ministre est notamment accusé de détournement de fonds publics. Il va comparaître dans 3 semaines devant le tribunal correctionnel de Paris. Alors, pour parler de l'émission et de sa prestation et du fonds média de cette émission sur France 2, je suis ravi de recevoir Jenny Calimi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et je précise que vous connaissez encore mieux le sujet que ces sujets-là que vous connaissez très très bien habituellement, la politique, puisque vous allez faire paraître un livre mi-février sur le sujet Trocadéro, le jour où la droite s'est sabordée. C'est aux éditions, ce sera aux éditions de l'Archipel. Trocadéro, c'était la grande manif de la dernière chance de François Fillon. Absolument. Avec tous les drapeaux blanc-rouge. À côté de vous, Véronique Reiss-Soult, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Densu Consulting et grande spécialiste des réseaux sociaux. Vous nous direz tout à l'heure si l'effet produit voulu par François Fillon s'est avéré. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de cette prise de parole de François Fillon. Vous-même, vous en attendiez quoi, Jenny Calimi?
Écoutez, Philippe, j'en attendais une surprise sur l'homme François Fillon, ou alors une surprise sur l'homme politique Fillon, ou
et
alors une surprise sur le justiciable monsieur François Fillon. Je n'ai pas eu de grosses surprises.
Même question, Véronique Reiss-Soult, qu'attendiez-vous de cette émission?
On va dire que l'opinion et les internautes, ils attendaient des révélations. Ils attendaient potentiellement une forme de mea culpa.
Ouais.
Bon, on va dire qu'ils sont un peu déçus.
On est bredouille. Quelle était sa stratégie? Première question, pourquoi a-t-il préféré s'exprimer à la télévision alors qu'il est resté silencieux pendant 3 ans, plutôt que devant les juges, ou plutôt de parler à la télé avant de parler devant les juges?
Moi, je pense, Philippe, qu'il y a une raison essentielle, c'est que François Fillon voulait réapparaître pour la dernière fois, et je pense que ça a été le cas, comme un homme politique, voire un homme d'État qu'il a été et qui reste toujours dans son esprit, et peut-être également dans l'esprit d'une certaine partie de la population, de ses électeurs ou pas. D'ailleurs, donc pour lui, avant de passer devant les juges et de ne faire qu'alimenter, je pense, il ne faut jamais dire jamais, surtout pas en politique, mais alimenter la chronique judiciaire. Pour lui, c'était un dernier jet, si je puis dire, une dernière manifestation de l'homme politique qu'il est encore aujourd'hui, encore une fois, de l'homme d'État. Et dernier point, qu'on développera peut-être tout à l'heure, une façon aussi de s'appuyer sur le public, s'appuyer sur l'opinion publique, qu'elle soit pour ou contre, en tout cas que ce soit une curiosité ou un soutien, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est bien tout ce qui reste aujourd'hui à François Fillon comme point positif dans sa vie politique et personnelle.
Enchaînement, tout trouvé avec Véronique Reiss-Soult, présidente de Denso Consulting, grande spécialiste, je l'ai dit, des réseaux sociaux. Est-ce que le public l'a suivi? Est-ce que vous avez vu sur Twitter et sur les réseaux sociaux, est-ce que le public l'a suivi?
Alors,
en ce sens-là, est-ce qu'il a adhéré à ces arguments?
Adhérer, non, parce que... Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas une seule opinion homogène. Il y a eu à peu près 34 000 messages depuis l'émission, entre 20h et ce matin, 8h.
C'est beaucoup, c'est peu?
Eh bien, c'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout si on compare. Alors, sur le format, vous avez la parole par rapport à l'émission politique, il y a toujours moins de messages sur vous avez la parole. On a peut-être le temps de se poser la question pourquoi, mais c'est un autre sujet. Mais c'est pas énorme, d'autant qu'il a eu plutôt un succès important en audience. Donc il y a un décalage entre les deux. Et en fait, je l'explique par le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Si vous regardez les messages, ils sont rangés en plusieurs catégories. Il y a globalement beaucoup de messages sur le questionnement de pourquoi est-il à la télévision aujourd'hui, pourquoi les journalistes, pourquoi la France Télévisions, enfin voilà, la télévision publique. Après, il y a beaucoup de sujets autour de Pénélope qui va se présenter à Solem.
Oui, elle va se présenter aux municipales.
Pour les municipales.
Dans leur village.
Voilà. Et puis après, ben, globalement, vous avez une communauté assez active qui sont les soutiens, qui ont dit combien elle était formidable. Mais il n'y avait pas grand-chose en soi. Et quand vous regardez les messages pendant une émission de ce type-là, d'habitude, vous avez des sujets qui émergent, des pics, des sujets qui durent tout en train de fond. Ben là, la seule chose que les gens ont vraiment retenue, c'est qu'ils ne reviendraient pas en politique. Le reste, il y a des petites explications, il y a des commentaires, beaucoup de sarcasme évidemment, beaucoup de plaisanterie, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose à dire, donc j'explique le fait qu'il n'y ait pas eu autant de messages que ça, parce que, ben, dans le fond, de quoi parler d'autre au-delà de ceux qui voulaient absolument le soutenir.
Il y a eu un lapsus savoureux, on va vous le faire entendre tout à l'heure, mais d'abord, François Fillon l'a répété, il ne compte pas revenir en politique, il ne compte pas s'excuser. Il a répondu à la question que je vous ai posée, pourquoi il est venu parler à la télévision? C'est pour défendre Pénélope, son épouse.
Enfin, il y a une dernière raison pour laquelle j'ai souhaité m'exprimer aujourd'hui, et ce sera la seule expression publique que j'aurai. C'est pour défendre l'honneur de ma femme et de ma famille. Mon épouse a été... son honneur a été déchiqueté dans cette affaire. Et quand je pense à ce qui s'est passé et à ce qu'on a écrit sur elle, je pense à cette phrase de Victor Hugo, « Les méchants accourus pour déchirer ta vie l'ont prise entre leurs dents, et les hommes alors, avec envie, se sont penchés pour voir dedans. » C'est une phrase qui résume assez bien ce que nous avons ensemble vécu et qui m'amène ce soir à vouloir essayer de rétablir quelques vérités.
François Fillon qui cite Victor Hugo, vous le connaissez bien, Jeannick Halimi, comment vous l'avez trouvé? À l'aise, pas à l'aise?
Je l'ai trouvé égal à lui-même. Alors, on peut se perdre en conjecture sur la sensibilité profonde de Monsieur Fillon. Il en a comme tout le monde, mais ce qui ressort surtout, et c'est ça qui nous intéresse encore une fois en tant qu'homme public, qu'il reste encore aujourd'hui, c'est qu'il a une détermination. C'est peut-être une carapace, mais en tout cas, il a une véritable volonté. N'oublions pas qu'il en a bavé des ronds de chapeau quand il était Premier ministre, mais il est resté quand même pendant 5 ans aux côtés d'une personne avec qui les relations n'étaient pas si bonnes que ça. Souvenez-vous de ces mots de dos récurrent lorsqu'il était à Matignon. Il a supporté tout ça. François Fillon a montré encore une fois qu'il était très dur avec lui-même et très déterminé dans la vie qu'il veut être la sienne.
J'aime bien la manière que vous avez de dire une personne. Cette personne, c'était Nicolas Sarkozy. Vous prenez autant de précautions oratoires que François Fillon, vous restez avec lui. Alors hier, en plateau en direct, il y avait Thomas Soto et Léa Salamé. Léa Salamé qui avait interviewé il y a quelques semaines Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, conseillé par Anne Méo. Et c'est elle qui avait organisé la conférence de presse de Ghosn à Beyrouth. Or, Anne Méo conseille également François Fillon. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux coups médiatiques à votre connaissance? Quelle interview était calée avant l'autre? Est-ce qu'on sait, on ne sait pas, ou tout ça reste très secret?
Je pense que ça reste très secret. Maintenant, François Fillon a dû quand même, vu qu'il connaissait la date de son procès, anticiper bien avant ce qui aurait pu arriver à...
Mais je voulais dire le choix de Léa Salamé. Il aurait pu aller sur une autre chaîne. N'importe quelle chaîne aurait accueilli François Fillon à bras ouverts.
Bah, écoutez, François, après on peut le critiquer. Je sais que Yannick Jadot, qui était chez vous au avant, critiquer le fait que le service public cherche soit un hôte d'accueil pour une émission malgré tout, enfin politique, avec des relents et peut-être des conséquences politiques, je n'en sais rien, mais d'un autre côté, quand on est François Fillon, ancien Premier ministre, c'est quand même normal, enfin en tout cas logique, de choisir une chaîne publique, en tout cas quelle qu'elle soit, pour faire la dernière apparition en tant qu'homme public, justement, et politique.
Et actuellement, TF1 n'a pas d'émission politique. Van Rijsselt, ce sujet a été commenté sur les réseaux sociaux.
C'est un des sujets qui était le plus commenté, même parce que déjà en amont, il y avait le sujet de pourquoi sur France 2, les internautes n'ont pas forcément la même vision de parce que c'est un homme politique et c'est un ancien président de la République. Premier ministre, pardon. Ouais. Et l'autre chose, c'est que le sujet de à Salamé et de M. Ghosn a été beaucoup commenté, énormément les uns les autres, disant mais après Ghosn c'est Fillon, pourquoi finalement c'est quoi cette espèce de fascination de Léa Salamé pour les hommes politiques ou les hommes en vue, on va dire les leaders d'opinion et les dirigeants qui sont mis en examen. Donc voilà, il y avait ce sujet-là, et puis ça a même été plus loin parce que finalement il y avait beaucoup d'internautes aussi qui disaient mais dans le fond les médias ils ont un problème avec les hommes blancs qui sont mis en examen. Parce que du coup, on a rappelé qu'il y a aussi énormément sur BFM TV M. Tapie, qui a... Enfin voilà, bref, il y avait beaucoup...
Les hommes blancs, vous dites ?
C'est ce que je lisais sur les réseaux sociaux. Les hommes blancs de plus de 50 ans mis en examen.
Mais voilà. En général, si vous êtes accusé de blanc, d'abus de...
Comment je trouve bien plus sociaux, le nom,
d'abus de bien social, en général, malheureusement, les PDG, c'est plutôt des hommes blancs de plus de 50 ans. Donc on, voilà.
on tombe forcément sur cette catégorie-là. Mais ça les a beaucoup fait réagir, effectivement.
Voilà. Et sur l'idée sous-jacente du tous pourri, il y a eu un lapsus de François Fillon qui a beaucoup fait réagir. Écoutez.
Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un collaborateur d'un député, d'un membre du Parlement n'est pas en même temps un collaborateur politique qui contribue d'une certaine façon au financement, au fonctionnement de son parti?
C'est un lapsus.
Confondre financement et fonctionnement.
Alors il faut bien quand même souligner que ce qui est reproché aujourd'hui, et encore que reproché, parce que moi je veux bien le tous pourri, mais d'abord la justice n'est pas encore passée, donc mettons quand même les pendules à l'heure, et le financement de partis, le détournement de fonds publics pour financement de partis n'est pas reproché à François Fillon ou à Pénélope Guette sur le procès qui va avoir lieu dans quelques semaines. En revanche, il est vrai que c'est un lapsus oblique vis-à-vis de toutes les affaires qui touchent M. Mélenchon ou ou Marine Le Pen avec l'utilisation de fonds publics pour des des financements de partis plutôt que pour l'exercice de leur tâche comme collaborateurs de députés ou d'eurodéputés.
En tout cas, hier soir, François Fillon a eu beaucoup de mal à répondre aux questions très 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 précises. Il a passé son temps à dire je suis pas là pour parler de ce sujet, je suis pas là pour parler de moi-même. À un moment donné, on le lance sur le cabinet noir. Il avait promis qu'il allait donner les noms du cabinet noir qui aurait été ourdi par François Hollande à l'Élysée. Au moment où on lui pose la question, il dit quelque chose du genre... c'est le moment de parler de l'état du pays.
Oui.
Quand
je vous disais tout à l'heure qu'on attendait des surprises qu'il n'y en avait pas eu, effectivement, ça faisait partie, le cabinet noir, d'un début de défense de lui-même au moment de la campagne. Peut-être, 3 ans après, pouvait-on, entre guillemets, espérer, ou en tout cas attendre des précisions. Il n'en a donné aucune. Il fallait mieux, effectivement, qu'il passe sur un autre registre que celui qui était le sien et qui était passablement léger dans ce domaine-là.
À son crédit, il a quand même reconnu une erreur, une seule, celle-ci.
Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ?
Cette phrase-là, vous la regrettez ?
Bien sûr. Je vais vous dire pourquoi je la regrette, parce que justement, pendant ces 40 années, j'ai quasiment toujours évité d'attaquer les personnes. Et j'ai toujours essayé de placer le débat sur le terrain des idées. Et là, dans l'enthousiasme ou la force du meeting, j'ai dérogé à cette règle et je le regrette.
Vous avez attaqué qui, là ? Vous avez attaqué Nicolas Sarkozy ?
J'ai attaqué tous ceux qui auraient pu être candidats en étant mis en examen.
Véronique Rixoud, ça vous fait sourire.
Ça me fait sourire, oui. C'est surtout qu'en fait, cette phrase, c'est peut-être la seule qui a réuni l'ensemble des internautes et des gens qui ont commenté hier. C'est le seul moment où tout le monde était d'accord pour dire que cette phrase n'avait pas de sens, apprécier le fait qu'il reconnaissait ses erreurs et finalement terminer sur une note positive et d'unicité.
Très rapidement, vous faites la mouche, Annick Calvini.
Oui, non, très vite. Alors, les internautes, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Si, ça avait plein de sens. Ça visait Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui était mis en examen. Et puis aussi, d'ailleurs, Alain Juppé, qui était l'autre candidat à la primaire, qui lui avait été condamné. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut bien voir que c'est extrêmement important ce que dit François Fillon, parce que encore une fois, Léa Salamé a raison, c'est l'ombre de Nicolas Sarkozy qui plane, mais c'est effectivement l'ombre de Nicolas Sarkozy qui plane sur Fillon pendant la campagne, après la campagne et encore aujourd'hui sur la droite dans l'état dispersé et très fragilisé dans lequel elle se trouve en partie en raison du Penelope Quête et donc de François Fillon.
Trocadéro, le jour où la droite s'est sabordée, c'est votre livre à venir, Jeannick Halimi, aux éditions de l'Archipel. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Et merci également à Véronique Reiss-Soult, présidente de Dentsu Consulting. On verra sur les réseaux sociaux comment cette émission a été appréciée. Merci à vous.